Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Thierry Andrieux, il est président de Lamballe Terre et Mer. J'ajoute qu'il est également maire de Hénon dans les Côtes d'Armor et il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors on a eu un peu de mal hein, dans le pour vous recevoir ici au micro de Bretagne 5, des obligations, on va en parler tout à l'heure, des obligations des élus qui sont parfois très prenantes. En tout cas ce matin, eh bien, on va parler de beaucoup de sujets d'actualité, on va parler pour commencer des grands projets de Lamballe Terre et Mer. Beaucoup d'auditeurs sur le secteur de Lamballe, mais bien au-delà, veulent savoir un petit peu quels seront les grands projets à venir dans cette agglomération, cette grande agglomération de Lamballe Terre et Mer.
Alors les grands projets que nous allons dévoiler effectivement pour 2024, sur la suite effectivement des décisions qui ont été prises dans le passé déjà et qui sont prises globalement avant 2017, avant la création de Lamballe Terre et Mer, depuis 2016 globalement. Et donc il y a un échelonnement, une programmation des investissements qui sont faits en fonction de nos capacités financières. C'est ce qu'il faut le comprendre. Aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux finances, mais nos collectivités, comme dans nos budgets privés, effectivement, on est obligé d'étaler, on est obligé de pouvoir arbitrer et décaler dans le temps. Donc aujourd'hui, les projets qui sont sortis de terre, donc on a eu en 2023, on a eu la halle du sport du Diffré qui est sortie à Lamballe, située sur Lamballe Armor. Et aujourd'hui, si on vient par rapport à une des politiques que nous avons au niveau qui est portée par l'agglomération, c'est sur la politique petite enfance. On a une micro-crèche, par exemple, qui nous sort, qui est en cours de finalisation, qui va ouvrir en mars prochain sur le territoire sud de Lamballe Terre et Mer, au niveau de la commune de Plémy, plus quelques équipements, des aménagements du territoire. Mais beaucoup d'investissements qui sont programmés jusqu'à la fin du mandat, de 2024 jusqu'en 2026, sur la mise en conformité des systèmes d'assainissement collectif de nos différentes communes. On a 38 communes sur l'agglomération de Lamballe Terre et Mer. Les compétences ont été transférées pour certaines communes en 2019 à l'agglomération, suite à la loi NOTRe et les différentes lois qui ont pu découler. Aujourd'hui, la volonté politique, c'est de mettre en conformité l'ensemble des dispositifs d'assainissement pour améliorer la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire. Donc, en 2026, notre volonté, c'est de mettre tout en conformité. Donc c'est un montant qui est assez conséquent sur un budget spécifique. C'est 36 millions d'euros qui sont engagés jusqu'à la fin du mandat pour pouvoir mettre en conformité les systèmes. Donc on a ce programme. On a aussi deux investissements qui sont programmés, qui sont un accompagnement depuis des dizaines d'années aujourd'hui. C'est le développement de la fibre. On en parle ici à Quessoy, qui était très attendu à Quessoy, mais sur d'autres territoires. C'est plus de 10 millions d'euros, 14 millions d'euros qui sont engagés sur les 10 prochaines années pour fibrer l'ensemble des Bretons. Rappelez que l'accompagnement de l'agglomération, c'est 355 euros par prise, par habitant, en accompagnant effectivement les fonds régionaux, départementaux et européens. Mmh. Donc on parle de l'Europe prochainement, mais en tout cas c'est l'Europe effectivement qui finance une partie du développement de la fibre via le syndicat mix Mégalis à l'échelle de la Bretagne. La volonté politique à l'échelle régionale, c'est de fibrer l'ensemble des Bretons avant 2026. C'est en cours de déploiement. On a commencé par les territoires où effectivement il y avait moins de débit, moins de réseau, voilà, moins de débit pour pouvoir arriver à fibrer. Donc des gros investissements globalement sur l'aménagement du territoire. On ne verra pas forcément de gros projets sortir de terre, des équipements, etc. L'idée, c'est de pouvoir améliorer le service public au plus près des citoyens, en complémentarité par rapport à la politique qui est portée par les communes, par le département, par la région. L'agglomération vient accompagner effectivement les citoyens en proposant un service public de la petite enfance aux personnes âgées. Donc beaucoup de choses effectivement qui sont faites, mais pas forcément de choses visibles que nous verrons en 2024.
Avec évidemment le nerf de la guerre, les financements, hein, vous l'évoquiez à l'instant Thierry Andrieux, les financements et le poids de ces financements aussi sur les ménages, puisqu'on paie les impôts évidemment, les impôts qui augmentent. Qu'est-ce que vous répondez aux habitants de Lamballe Terre et Mer qui disent, ben voilà, on paie toujours plus d'impôts, quand ça va s'arrêter?
Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, il y a beaucoup de compétences qui sont transférées de plus en plus vers les EPCI, vers les communautés de communes, les agglomérations. Des compétences qui étaient portées à l'échelle par l'État, qui sont transférés après derrière aux collectivités territoriales, soit effectivement pas aux communes, soit aux, comment, aux agglomérations, etc. Si je prends un exemple, les cartes d'identité, auparavant c'était quand même géré par l'État, c'est revenu aux communes. Si je reviens à d'autres politiques qui étaient portées par l'État, la compétence GEMAPI, prévention contre les inondations, qui a été transférée effectivement aux agglomérations. Donc tout cela impacte nos budgets respectifs au niveau de nos collectivités, plus la réforme sur la fiscalité, la suppression de la taxe d'habitation est venue impacter nos budgets respectifs. Donc on n'a plus d'autonomie fiscale. Donc du coup, on est contraint globalement. Donc on n'a, entre guillemets, pas trop le choix de pouvoir équilibrer nos budgets, de revaloriser effectivement la tarification et les impôts locaux. Alors, c'est vrai que c'est pas de gaieté de cœur de pouvoir augmenter ces impôts ou ces tarifications, mais nous n'avons pas le choix pour pouvoir équilibrer et maintenir le service public. Notre volonté globalement, notre volonté à l'échelle du territoire de l'agglomération, c'est de maintenir les services publics tels qu'ils sont, de proposer un service de qualité et de proximité, que ce soit en complémentarité effectivement avec nos communes et les compétences du département et de la région. Donc il y a des choses, effectivement, que nous sommes en attente. Je pense à une des politiques, la politique grand âge, que nous attendons, effectivement, avec impatience, comme de nombreux territoires, pour pouvoir accompagner nos personnes âgées, que ce soit à domicile ou dans notre structure, telles les EHPAD, etc. Donc on voit globalement que ce qu'on reçoit aujourd'hui comme compétences, on est obligé de les assumer avec nos budgets respectifs, et sans autonomie fiscale.
Alors il y a quelque chose qui préoccupe les auditeurs de Bretagne 5. On a reçu quand même, quand on a annoncé que vous veniez au micro de la matinale, quelques messages. Les auditeurs qui s'inquiètent en se disant, voilà, on a des abris de jardin, on paie, d'abord pourquoi on paie pour les abris de jardin, et pourquoi on paie de plus en plus cher, là encore il est question d'impôts.
Alors, les abris de jardin, effectivement, c'est bien une compétence à l'échelle de la commune, c'est la fiscalité de la commune, la taxe qui est levée. Donc c'est la loi, entre guillemets, qui nous l'a imposé. Donc aujourd'hui, si c'est une taxe qui est sur les abris de jardin, c'est bien une possibilité qui est donnée aux élus locaux, mais qui a été proposée par les parlementaires. D'une chose. Donc pourquoi ça augmente ? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autonomie, entre guillemets, de nos collectivités, l'équilibre de nos budgets. Donc certains élus ont pris la décision, effectivement, de pouvoir revaloriser la taxe sur les abris de jardin. Après, derrière, chaque commune fait ce qu'il souhaite, entre guillemets, pour pouvoir équilibrer leur budget. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à parfois des augmentations qui peuvent être différentes aussi selon les collectivités. Voilà.
Voilà, peut-être s'installer dans une commune où c'est moins cher d'avoir un abri de jardin. Ça, c'est pour la petite plaisanterie. Plus sérieusement, il y a aussi des attentes en matière d'aménagement du territoire. On en parle beaucoup aujourd'hui. On parle de la préservation des terres. Ça va nous amener tout à l'heure à l'agriculture et les soubresauts de l'agriculture aujourd'hui qui vit très mal et on est sur un territoire agricole. Il y a beaucoup d'attentes en matière d'aménagement du territoire. On sait que l'agglomération fait beaucoup, on parle beaucoup de bocage, de planter des haies également.
Donc on a une politique environnementale qui est assez forte, c'est pas d'aujourd'hui, qui était très développée pour pouvoir sur la compétence gestion des milieux aquatiques et préservation des ressources. Effectivement, que ce soit la partie bocage, effectivement, la renaturation finalement des cours d'eau, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir arriver à préserver notre environnement. La qualité d'eau, quand même, quand on a sur un bassin, effectivement, la baie de Saint-Brieuc, quand même, est repérée à l'échelle nationale par rapport à différentes problématiques. On a parlé de la problématique des algues vertes, mais on flèche souvent nos agriculteurs par rapport à le taux de nitrate. Mais il y a aussi nos collectivités, j'en parlais tout à l'heure, sur la mise en conformité du système d'assainissement collectif. C'est important qu'on puisse faire cet effort. Il faut que l'ensemble des citoyens fassent des efforts, que ce soit effectivement le particulier, que ce soit nos collectivités et les acteurs économiques. J'ai bien dit les acteurs économiques. Pour l'aménagement du territoire, effectivement, on a la loi climat et résilience qui s'oriente sur une réduction de la consommation foncière de 50% à l'horizon 2031. Donc ça veut dire ce qu'on a pu consommer entre 2011 et 2021, il faut qu'on le réduise de 50% pour pouvoir préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aménage notre territoire différemment, il va falloir qu'on densifie davantage dans nos centralités, dans nos zones d'activité économique, qu'on aménage totalement différemment, tout cela en préservant effectivement les espaces naturels.
Donc, il y a avec aussi une question, c'est comment loger les habitants, parce que évidemment il y a une forte demande, la Bretagne attire, la région de Lamballe attire, il faut bien le dire.
Il faut trouver le bon équilibre, comme vous l'avez dit, il faut trouver le bon équilibre entre du foncier pour l'économie, foncier pour l'habitat et pour nos infrastructures. Donc effectivement, on demande de plus en plus de services, il faut qu'on fasse évoluer nos politiques publiques, donc avec les équipements que nous avons. Il faut qu'on arrive à trouver du foncier pour loger les habitants du territoire. On a un territoire qui est attractif, on a un territoire où le taux de chômage est inférieur à 5%. On a 4,6% de taux de chômage aujourd'hui. Les entreprises sont à la recherche de salariés. Les salariés qui veulent venir sur le territoire sont à la recherche effectivement d'endroits pour se loger, que ce soit des maisons d'habitation, différents lieux. Donc il va falloir qu'on trouve le juste milieu. Donc on est en train de travailler à l'échelle du pays de Saint-Brieuc, à l'échelle des deux agglomérations, que ce soit Saint-Brieuc et Lamballe-Terre-et-Mer, Saint-Brieuc agglomération et Lamballe-Terre-et-Mer, les 70 communes, pour pouvoir faire une révision de notre document d'urbanisme qui est au-dessus du PLU et PLUI, qui est le SCOT, qui va être arrêté prochainement, pour pouvoir trouver ce bon équilibre, avec une volonté de pouvoir revitaliser nos centres-bourgs et nos centres-villes. On a trop vu effectivement d'aménagement en périphérie de bourgs, de villes, autour des ronds-points, autour des rocades, et qui sont venus dévitaliser nos centres-bourgs. Donc l'idée, effectivement, c'est de trouver ce travail d'aménagement du territoire, tout en préservant l'activité agricole. On a un territoire qui, en Bretagne, on connaît bien, qui l'agriculture est importante aujourd'hui, et on a aussi toute l'industrie qui en découle, l'industrie agroalimentaire. On sait qu'on nourrit de nombreux Bretons, mais pas que des Bretons, on est des Français, voire des étrangers en même temps. Donc il faut qu'on arrive à trouver aussi également le bon équilibre par rapport à ça. L'activité agricole souffre actuellement. On voit bien qu'il y a eu un mouvement social important, même si on voit qu'ils ont fait une pause actuellement dans l'attente d'autres annonces gouvernementales. Il faut qu'on arrive à préserver cette activité agricole. Il faut qu'on arrive effectivement à accompagner les agriculteurs aussi dans ce mode économique qu'il va falloir évoluer. Aujourd'hui, on voit que le climat change. Le sud de la France est impacté. On voit bien aujourd'hui, il y a certaines cultures qui n'arrivent pas à se développer par manque d'eau, tout simplement. Donc il va falloir qu'on arrive à accompagner via l'agroécologie les agriculteurs. Donc il faut qu'on arrive à travailler de façon concertée avec cet agriculteur. Il y a aussi des échanges que nous avons actuellement sur la simplification des documents administratifs au niveau du monde agricole. Donc tout ça nous percute effectivement, nous ajoute effectivement du temps d'intervention qui m'a imposé effectivement de décaler ces derniers rendez-vous que nous avons eus. Programmé la semaine passée.
Voilà, alors l'agriculture, pilier, j'allais dire, du secteur, avec justement cet équilibre entre agriculture et environnement. D'un point de vue humain, est-ce que vous trouvez quand même qu'on les malmène beaucoup, les agriculteurs ?
On connaît pas assez leur métier. C'est plus ça, globalement. Je pense qu'il y a un problème de pédagogie, il y a un travail qui pourrait être de pédagogie, que le point de ça, d'explication par rapport à différents métiers. Souvent, certaines personnes qui s'expriment du vu de l'extérieur ne connaissent pas forcément le métier de l'agriculteur, avec à la fois un regard extérieur qui est perturbé, qui est
Il y a parfois des préjugés également.
Il y a beaucoup de préjugés, voilà. On voit que le monde agricole a évolué, énormément évolué. Si on revient il y a 20-30 ans en arrière, on voit aujourd'hui, la robotisation devient de plus en plus pour pouvoir alléger un petit peu les tâches de l'agriculteur. Je pense juste à la traite des vaches aujourd'hui. On voit bien que de plus en plus, il y a des robots qui permettent de soulager les conditions de travail des agriculteurs. Et les agriculteurs sont très impliqués du lundi matin au dimanche soir. Donc on voit qu'il faut qu'on puisse arriver à trouver un accompagnement, on va dire un accompagnement pédagogique du monde agricole. Alors que c'est vrai qu'ils sont très sollicités, le regard est méfiant, un gros regard méfiant effectivement de la population, alors qu'ils pourraient nous valoriser. Nos agriculteurs travaillent pour pouvoir nourrir les Français et les Européens, voire la population mondiale. Parce qu'on voit parfois, il y a eu des pièces cinquième quartier de port, entre guillemets, oui, qui, s'en va vers, qui va servir de pays chinois ou de différents endroits. Donc il faut qu'on arrive à améliorer effectivement ces relations, qu'on puisse les écouter et les respecter. On est dans un monde aujourd'hui qui est compliqué, on a tendance à ne pas se respecter. Il faut qu'on puisse se comprendre, s'écouter, afin de pouvoir vivre ensemble dans ce monde quand même qui est pas si mal que ça en France. On vit bien en France quand même, et on mange bien.
Voilà, et ça encore, ça nous ramène à l'agriculture. Les agriculteurs qui sont aussi partie prenante dans la vie des bourgs, des communes, ici peut-être plus qu'ailleurs, sur un territoire très rural.
Oui, effectivement, ils sont une activité importante qui nous influence effectivement dans l'aménagement de notre territoire, de nos communes. On voit, si je prends ça l'exemple de Hénon, le maire de Hénon qui vous parle, nous avons travaillé sur un aménagement foncier qui est très différent par rapport à ce qu'on pouvait faire dans les années 70, on faisait des remembrements. Donc on a aménagé le parcellaire pour pouvoir regrouper les parcelles au plus près du siège d'exploitation. On a replanté effectivement des haies, on a remis des talus en place en cohérence avec nos politiques environnementales. Tout cela pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, éviter les déplacements aussi des engins entre les différents parcellaires sur la commune assez très étendue. Et tout cela avec un accompagnement financier de la part de l'Europe, de la région, du département et de l'agglomération. Tout ça gratuitement pour l'ensemble des exploitants et des propriétaires. Donc on voit que l'ensemble des collectivités, que ce soit à l'échelle communale, intercommunal, départemental, régional, national, voire européen, on accompagne les agriculteurs. Je sais que certains agriculteurs souhaitent effectivement vivre de leur autonomie aussi. On parle d'autonomie tout à l'heure, autonomie fiscale, mais je pense que certains souhaiteraient effectivement vivre sans aide aujourd'hui. Ils pourraient vendre plus au juste prix leurs produits. Mais on voit qu'il y a une disparité à l'échelle européenne entre différents pays. Il faut qu'on arrive à travailler, c'est pas à notre échelle de l'intercommunalité, mais c'est à l'échelle effectivement nationale et avec les députés européens et notre gouvernement qui doit effectivement pouvoir être très à l'écoute du monde agricole.
Voilà, on parlera un petit peu de l'Europe tout à l'heure pour conclure. Il y a aussi des difficultés sur le terrain. Vous qui êtes élu de terrain, vous les vivez ces difficultés. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être un élu de terrain, d'être à l'écoute des sollicitations, parfois des colères? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui?
Je ne sais pas si c'est plus difficile. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis élu que seulement depuis 2008, voilà, maire depuis 2013. Je pense que la population devient de plus en plus exigeante. On devient tous de plus en plus exigeants. On veut, quand on veut un service, on le veut tout de suite et on le veut pratiquement dans l'instant. Il y a ça. Et on devient beaucoup plus en plus exigeant. Donc il y a ça, un premier temps. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que globalement, depuis la crise sanitaire, on voit une agressivité de la part de l'ensemble de la population, que ce soit pour les services publics ou les services privés. J'entendais dernièrement dans une entreprise privée, on me disait mais le client il devient de plus en plus agressif. Pour la moindre perturbation aujourd'hui, on a tendance à ne pas se respecter. Alors c'est le cas à l'échelle de nos communes. Je dis la première porte d'entrée du service public, c'est bien la mairie. Donc dès qu'on voit la mairie, la première personne, entre guillemets, quand il y a un mécontentement du citoyen, c'est notre salarié, c'est la secrétaire ou la secrétaire, le secrétaire ou la secrétaire qui est à l'accueil, qui prend la première slave effectivement de mécontentement de la part de la population. Aujourd'hui, on en discutait à l'Association des maires de France, à l'Assemblée générale samedi dernier, où on voit qu'il y a de plus en plus effectivement d'agressions verbales et physiques envers l'autorité. L'autorité, donc forcément les élus, mais pas que. Hein. Effectivement, on pense au directeur d'école, aux instituts. On pense aussi à la gendarmerie, à toute forme d'autorité.
Il y a un refus de l'autorité aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'il y a une impression de refus d'autorité. Donc comment arriver à canaliser ça? Ce que j'ai souhaité, effectivement, c'est d'avoir une année pour l'année 2024 dans mes voeux, c'est d'avoir une année orientée vers la sérénité et le respect. Et je pense que si on commence déjà par s'écouter dans un premier temps et se respecter, on peut même permettre d'apaiser un petit peu les tensions, comprendre un petit peu les mécontentements, que ce soit de la part de l'ensemble des citoyens et des organisations aussi qui peuvent avoir des organisations diverses et variées qui peuvent arriver à en faire nos réflexions. En tout cas, on voit que quand même pour venir aux élus, les réformes qu'ils peuvent avoir à l'échelle nationale nous impactent à l'échelle locale. Le mécontentement qu'ils peuvent avoir sur des décisions qui sont prises au gouvernement, je pense au 49-3 que nous avons vu plusieurs fois passer en 2023, tous ces mécontentements ils retombent à l'échelle locale et qui est la première, qui est à l'écoute en guillemets, auprès de la population, c'est bien les maires et le secrétaire de mairie normalement qui sont arrivés. Donc du coup, tout ce mécontentement qu'il peut avoir, qui surgit de la base aujourd'hui, remonte via nos mairies, via différentes collectivités, que ce soit, je reviens à la commune, aux agglos, au département et à la région. Mais on voit bien que les élus régionaux sont un peu plus éloignés, moins identifiés que nos élus locaux.
Voilà, les élus locaux en première ligne. Il y a aussi des incompréhensions parfois sur comment fonctionnent. Alors les mairies, on sait à peu près, hein, mais bon, après, on passe à des territoires plus grands et il y a des confusions, par exemple, dans ce que vous appelez, ce que l'on appelle les délégations. Qui fait quoi finalement aujourd'hui ? Les citoyens ont du mal à s'y retrouver.
Effectivement, ils ont du mal à s'y retrouver. Même moi, le premier avant d'être élu, quand on ne s'intéresse pas trop, entre guillemets, à l'organisation, ce que souhaite le citoyen d'un premier temps, c'est quoi ? C'est d'abord le service public de qualité et de proximité. À la limite, que ce soit porté par la commune, que ce soit par l'agglomération, par le département, la région ou par l'État, entre guillemets, ils s'en fichent. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir ce service. Aujourd'hui, comment c'est organisé ? Entre la commune et l'agglomération, déjà, il y a des compétences, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont imposées et transférées à l'agglomération. J'ai parlé tout à l'heure de la compétence eau et assainissement. Quand il y a une agglomération sur le territoire, c'est le cas pour l'Ambalterre-et-Mer, la compétence est transférée directement à l'agglomération. Donc, parfois, il y a des compétences qui sont imposées et transférées aux agglomérations. Et parfois, effectivement, c'est une décision politique qui est prise à l'échelle du territoire.
Il faut pouvoir l'expliquer, finalement.
Expliquer, voilà, si on prend la politique petite enfance, l'agglomération de la Baltérimer porte de la politique petite enfance, enfant-jeunesse, jusqu'aux personnes âgées. Donc le CIAS qui intervient pour accompagner les personnes âgées, ça c'est bien la compétence de l'agglomération, y compris la petite enfance, on va parler de micro-crèche, on pense au centre de loisirs, tout ça c'est porté par l'agglomération. C'est spécifique à... C'est le cas pour l'agglomération de la Baltérimer. Et si je vais à l'agglomération qui est à côté, Saint-Brieuc agglomération, la petite enfance et l'enfant jeunesse est porté par les communes. Vous voyez que c'est différent.
Donc, d'où peut-être les confusions, finalement.
C'est tout qui porte confusion. Mais après, derrière, c'est la libre administration des collectivités. Les décisions peuvent être sur la même politique. On peut avoir un accompagnement différent entre deux collectivités. Et ça, c'est la libre administration des collectivités, le choix des élus par rapport à ça. Comment c'est organisé à l'échelle de l'agglomération ? Donc, c'est bien les 38 communes qui participent au conseil communautaire pour prendre des décisions, des orientations au cours des décisions au niveau du conseil communautaire. Un travail de préparation auparavant avec un bureau communautaire, avec effectivement des commissions. Il faut savoir que chaque commission thématique, l'ensemble des communes, l'ensemble des conseillers municipaux des communes peuvent y participer. C'est pour ça que moi, j'invite effectivement l'ensemble des conseillers municipaux des différentes communes à participer à ces commissions, qui est bien un travail préparatoire à la décision qui sera proposée en conseil d'agglomération. Donc aujourd'hui, c'est un travail de complémentarité effectivement entre nos différentes collectivités. Il y a certaines compétences qui peuvent être portées à l'échelle de la commune, mais il y a certaines compétences tellement importantes, il faut à tout prix qu'on les regroupe. Il y a été regroupé à l'époque des syndicats auparavant, après des communautés de communes, des communautés d'agglomération, pour pouvoir proposer ce service de façon équitable et adaptée au territoire. Qu'on soit sur l'Orla, que ce soit à Plurien, qu'on soit à Plémy ou que ce soit à Lamballe-Armor, aujourd'hui, le service doit être proposé à l'ensemble des citoyens avec équité.
Alors, il nous reste à peine 3 minutes, me dit notre réalisateur. Il est le maître du temps ici. J'aurais voulu vous entendre sur également quelque chose qui concerne aussi les communes, les agglomérations. C'est l'Europe et l'Union européenne qui est très chahutée aujourd'hui. Il ne nous aura pas échappé que dans 4 mois, nous allons voter pour élire les députés européens. Est-ce qu'il y a une inquiétude face à cette élection qu'on annonce peut-être un peu différente des précédentes, puisqu'il y a une forte poussée de Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Oui, effectivement, ça m'inquiète, parce qu'on voit que... Est-ce que cette poussée est influencée par certains milieux ? On peut dire ça aussi. Aujourd'hui, il y a sentiment de repli sur soi, que ce soit de la part à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale aussi par rapport à ça. Donc il faut qu'on fasse très attention. L'Europe nous permet d'être fort quand même à l'échelle mondiale. Mmh. On a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier notre passé aussi. Hein. Faut pas qu'on oublie ça. Faut pas oublier effectivement ce qui s'est passé il y a 80 ans, à peu près, globalement. Donc il faut qu'on arrive à arriver à ces stabilités et ces stabilités entre différents pays, à l'échelle, qu'on reste solidaire à l'échelle européenne vis-à-vis des tensions qu'ils peuvent avoir. On vient se rappeler qu'on a une guerre qui est aux portes de l'Europe, aujourd'hui, quand même, a tendance à l'oublier. Il y a cet équilibre aussi économique, ces enjeux économiques à l'échelle mondiale. Il faut qu'on arrive à défendre quand même notre territoire à l'échelle européenne vis-à-vis des pays, je pense aux prochaines élections aussi qu'on aura aux États-Unis prochainement. Donc il faut qu'on puisse être fort et avoir, entre guillemets, cette unité, cette solidarité à l'échelle européenne. Mmh. Et ça, beaucoup d'entre nous, effectivement, oublient beaucoup, effectivement, les actions qui peuvent être portées localement à l'échelle locale. On a parlé beaucoup, effectivement, d'accompagnement de l'Europe, et qu'on a parlé du monde agricole, genre actuel, qui sont accompagnés, même si c'est imparfait, effectivement, toutes les actions qui sont faites. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler main à main avec les différents pays à l'échelle européenne. Donc une grosse inquiétude, effectivement, de ma part, par rapport aux prochaines élections. J'ai juste un vœu, si, avant que ça se termine, effectivement, que les gens puissent se déplacer, effectivement, pour voter. Ça a tendance, effectivement, on voit que le taux d'absentéisme est le plus élevé, c'est aux élections européennes. Donc, aller voter, c'est un droit. Et bien, vous rappelez que pour les femmes, c'est un droit qui n'est pas si vieux que ça. Mm-hmm. De mémoire, c'est 1950, je crois, de
1945.
45, enfin, voilà. 50, donc. Mm-hmm. Voilà. C'est pas si vieux que ça.
Merci infiniment Thierry Andrieux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Lambalter et maire de Hénon, ça je le dis, dans les Côtes-d'Armor pour nos auditeurs lointains qui nous écoutent. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.